Chapitre 9. Un des souvenirs du duc d'Anjou. Le jeune homme, en rentrant, put entendre le funeste éclat de rire du prince, mais il n'avait point assez vécu auprès de son Altesse pour connaître toutes les menaces renfermées dans une manifestation joyeuse du duc d'Anjou. Il eût pu s'apercevoir aussi, au trouble de quelques physionomies, qu'une conversation hostile avait été tenue par le duc en son absence et interrompue par son retour. Mais Henri n'avait point assez de méfiance pour deviner de quoi il s'agissait. Nul n'était assez son ami pour le lui dire en présence du duc. D'ailleurs, Aurilly faisait bonne garde, et le duc, qui sans aucun doute avait déjà à peu près arrêté son plan, retenait Henri près de sa personne jusqu'à ce que tous les officiers présents à la conversation fussent éloignés. Le duc avait fait quelques changements à la distribution des postes. Ainsi, quand il était seul, Henri avait jugé à propos de se faire centre, puisqu'il était chef, et d'établir son quartier général dans la maison de Diane. Puis, au poste le plus important, après celui-là, et qui était celui de la rivière, il envoyait l'enseigne. Le duc, devenu chef à la place de Henri, prenait la place de Henri et envoyait Henri où celui-ci devait envoyer l'enseigne. Henri ne s'en étonna point. Le prince s'était aperçu que ce point était le plus important et il le lui confiait. C'était chose toute naturelle, si naturelle que tout le monde et Henri le premier se méprit à son intention. Seulement il crut devoir faire une recommandation à l'enseigne des gendarmes et s'approcha de lui. C'était tout naturel aussi qu'il mît sous sa protection les deux personnes sur lesquelles il veillait et qu'il allait être forcé, momentanément du moins, d'abandonner. Mais au premier mot que Henri tenta d'échanger avec l'enseigne, le duc intervint. « Des secrets, dit-il avec son sourire. » Le gendarme avait compris, mais trop tard, l'indiscrétion qu'il avait faite. Il se repentait et, voulant venir en aide du comte, « Non, monseigneur, répondit-il, monsieur le comte me demande seulement combien il me reste de livres de poudre sèche et en état de servir. » Cette réponse avait deux buts, sinon deux résultats. Le premier, de détourner les soupçons du duc, s'il en avait. Le second, d'indiquer au comte qu'il avait un auxiliaire sur lequel il pouvait compter. « Ah, c'est différent, répondit le duc, forcé d'ajouter foi à ses paroles, sous peine de compromettre, par le rôle d'espion, sa dignité de prince. » Puis, pendant que le duc se retournait vers la porte qu'on ouvrait, « Son Altesse sait que vous accompagnez quelqu'un, glissa tout bas l'enseigne à Henri. » Du Bouchage tressaillit, mais il était trop tard. Ce tressaillant lui-même n'avait point échappé au duc, et, comme pour s'assurer par lui-même si les ordres avaient été exécutés partout, il proposa au comte de le conduire jusqu'à son poste, proposition que le comte fut bien forcé d'accepter. Henri eût voulu prévenir Remy de se tenir sur ses gardes et de préparer à l'avance quelques réponses, mais il n'y avait plus moyen. Tout ce qu'il put faire, ce fut de congédier l'enseigne par ces mots. « Veillez bien sur la poudre, n'est-ce pas? Veillez-y comme j'y veillerai moi-même. »« Oui, monsieur le comte, » répliqua le jeune homme. En chemin, le duc demanda à Du Bouchage, « Où est cette poudre que vous recommandez à notre jeune officier, comte ?»« Dans la maison où j'avais placé le quartier général, Altesse. » Soyez tranquille, Du Bouchage, répondit le duc, je connais trop bien l'importance d'un pareil dépôt dans la situation où nous sommes pour ne pas y porter toute mon attention. Ce n'est point notre jeune enseigne qui le surveillera, c'est moi. La conversation en resta là. On arriva sans parler davantage au confluent du fleuve et de la rivière. Le duc fit à Du Bouchage force recommandation de ne pas quitter son poste et revint. Il retrouva Aurilly. Celui-ci n'avait point quitté la salle du repas et, couché sur un banc, dormait dans le manteau d'un officier. Le duc lui frappa sur l'épaule et le réveilla. Aurilly se frotta les yeux et regarda le prince. « Tu as entendu ?» lui demanda celui-ci. « Oui, monseigneur, » répondit Aurilly. « Sais-tu seulement de quoi je veux parler ?»« Par Dieu, de la dame inconnue, de la parente de monsieur le comte Du Bouchage. » « Bien, je vois que le faro de Bruxelles et la bière de Louvain ne t'ont point encore trop épaissi la cervelle. »« Qu'allons donc, monseigneur, parlez, ou faites seulement signe, et votre Altesse verra que je suis plus ingénieux que jamais. Allons, voyons, appelle toute ton imagination à ton aide et devine. Eh bien, monseigneur, je devine que votre Altesse est curieuse. Ah, parbleu, c'est une affaire de tempérament, cela. Il s'agit seulement de me dire ce qui pique ma curiosité à cette heure. Vous voulez savoir quelle est la brave créature qui suit ces deux messieurs de Joyeuse à travers le feu et à travers l'eau. Per mille pericula martis, comme dirait ma sœur Margot, si elle était là. Tu as mis le doigt sur la chose, Aurilly. À propos, lui as-tu écrit, Aurilly? À qui, monseigneur? À ma sœur Margot. Avais-je donc à écrire à sa majesté? Sans doute. Sur quoi? Mais sur ce que nous sommes battus, par Dieu, ruinés, sur ce qu'elle doit bien se tenir. Et à quelle occasion, monseigneur? À cette occasion que l'Espagne, débarrassée de moi au nord, va lui tomber sur le dos au midi. Ah, c'est juste. Tu n'as pas écrit? Dame, monseigneur, tu dormais. Oui, je l'avoue, mais encore l'idée me fut-elle venue d'écrire. Avec quoi eussé-je écrit, monseigneur? Je n'ai ni papier, ni encre, ni plume. Eh bien, cherche, croirai, est une veignesse, dit l'Évangile. Comment diable votre majesté veut-elle que je trouve tout cela dans la chaumière d'un paysan qui, il y a mille à parier contre un, ne sait pas écrire? Cherche toujours, imbécile, et si tu ne trouves pas cela, eh bien, tu trouveras autre chose. Oh, imbécile que je suis, s'écria Aurilly en se frappant le front. Ma foi, oui, votre Altesse a raison et ma tête s'embourbe. Cela tient à ce que j'ai une furieuse envie de dormir, voyez-vous, monseigneur. Allons, allons, je veux bien te croire. Chasse cette envie-là pour un instant, et puisque tu n'as pas écrit, toi, j'écrirai, moi. Cherche-moi seulement tout ce qu'il me faut pour écrire. Cherche, Aurilly, cherche, et ne reviens que lorsque tu auras trouvé. Moi, je reste ici. J'y vais, monseigneur. Et si, dans ta recherche, attends donc, si dans ta recherche tu t'aperçois que la maison soit d'un style pittoresque, tu sais combien j'aime les intérieurs flamands, Aurilly. Oui, monseigneur. Eh bien, tu m'appelleras. À l'instant même, monseigneur, vous pouvez être tranquille. Aurilly se leva, et léger comme un oiseau, il se dirigea vers la chambre voisine où se trouvait le pied de l'escalier. Aurilly était léger comme un oiseau aussi, à peine entendit-on un léger craquement au moment où il mit le pied sur les premières marches, mais aucun bruit ne décela sa tentative. Au bout de 5 minutes, il revint près de son maître, qui s'était installé, ainsi qu'il l'avait dit, dans la grande salle. « Eh bien, demanda celui-ci, eh bien, monseigneur, si j'en crois les apparences, la maison doit être diablement pittoresque. Pourquoi cela ? Peste, monseigneur, parce qu'on n'y entre pas comme on veut. Que dis-tu ? Je dis qu'un dragon la garde. Quelle est cette sotte plaisanterie, mon maître ? Monseigneur, ce n'est malheureusement pas une sotte plaisanterie, c'est une triste vérité. Le trésor est au premier, dans une chambre, derrière une porte sous laquelle on voit luire de la lumière. Bien, après, monseigneur veut dire avant. Aurilly ! Eh bien, avant cette porte, monseigneur, on trouve un homme couché sur le seuil dans un grand manteau gris. Oh, monsieur Dubouchage se permet de mettre un gendarme à la porte de sa maîtresse. Ce n'est point un gendarme, monseigneur, c'est quelque valet de la dame ou du comte lui-même. Et quelle espèce de valet? Monseigneur, impossible de voir sa figure, mais ce que l'on voit est parfaitement, c'est un large couteau flamand passé à sa ceinture et sur lequel il appuie une vigoureuse main. « C'est piquant, dit le duc. Réveille-moi un peu ce gaillard-là, Aurilly. Oh, »« Par exemple, non, monseigneur. »« Tu dis ?»« Je dis que sans compter sur ce qui pourrait m'arriver à l'endroit du couteau flamand, je ne vais pas m'amuser à me faire des mortels ennemis de messieurs de Joyeuse qui sont très bien en cour. » Si nous eussions été rois des Pays-Bas, passe encore, mais nous n'avons qu'à faire des gracieux, monseigneur, surtout avec ceux qui nous ont sauvés, car les Joyeuses nous ont sauvés. Prenez garde, monseigneur, si vous ne le dites pas, ils le diront. Ah, tu as raison, Aurilly, dit le duc en frappant des pieds, toujours raison, et cependant, Oui, je comprends, et cependant, Votre Altesse n'a pas vu un seul visage de femme depuis 15 mortels jours. Je ne parle point de ces espèces d'animaux qui peuplent les polders. Cela ne mérite pas le nom d'homme ni de femme. Ce sont des mâles et des femelles, voilà tout. Je veux voir cette maîtresse de Dubouchage, Aurilly. Je veux la voir, entends-tu? Oui, monseigneur, j'entends. Eh bien, réponds-moi alors. Eh bien, monseigneur, je réponds que vous la verrez peut-être, mais pas par la porte, du moins. Soit, dit le prince, si je ne puis la voir par la porte, je la verrai par la fenêtre, au moins. Ah, voilà une excellente idée, monseigneur, et la preuve que je la trouve excellente, c'est que je vais vous chercher une échelle. Aurilly se glissa dans la cour de la maison et alla se heurter au poteau d'un appentis sous lequel les gendarmes avaient abrité leurs chevaux. Après quelques investigations, Aurilly trouva ce qu'on trouve presque toujours sous un appentis, c'est-à-dire une échelle. Il la manœuvra au milieu des hommes et des animaux assez habilement pour ne pas réveiller les uns et ne pas recevoir des coups de pied des autres, et alla l'appliquer dans la rue à la muraille extérieure. Il fallait être prince et souverainement dédaigneux des scrupules vulgaires, comme le sont en général les despotes de droit divin, pour oser, en présence du factionnaire se promenant de long en large devant la porte où étaient enfermés les prisonniers, pour oser accomplir une action aussi audacieusement insultante à l'égard de Dubouchage que celle que le prince était en train d'accomplir. Aurilly le comprit et fit observer au prince la sentinelle qui, ne sachant pas quels étaient ces deux hommes, s'apprêtait à leur crier « Qui vive !» François haussa les épaules et marcha droit au soldat. Aurilly le suivit. Mon ami, dit le prince, cette place est le point le plus élevé du bourg, n'est-ce pas? Oui, monseigneur, dit la sentinelle, qui, reconnaissant François, lui fit le salut d'honneur. Et n'était ces tilleuls qui gênent la vue, à la lueur de la lune, on découvrirait une partie de la campagne. Je m'en doutais, dit le prince, aussi ai-je fait apporter cette échelle pour regarder par-dessus. Monte donc, Aurilly. Oh, plutôt non, laisse-moi monter. Un prince doit tout voir par lui-même. Où dois-je appliquer l'échelle, monseigneur? Demanda l'hypocrite valet. Mais au premier endroit venu, contre cette muraille, par exemple. L'échelle appliquée, le duc monta. Soit qu'il se doutât du projet du prince, soit par discrétion naturelle, le factionnaire tourna la tête du côté opposé au prince. Le prince atteignit le haut de l'échelle, Aurilly demeura au pied. La chambre dans laquelle Henri avait enfermé Diane était tapissée de nattes et meublée d'un grand lit de chêne avec des rideaux de serge, d'une table et de quelques chaises. La jeune femme, dont le cœur paraissait soulagé d'un poids énorme depuis cette fausse nouvelle de la mort du prince qu'elle avait apprise au camp des gendarmes d'Aunis, avait demandé à Remi un peu de nourriture, que celui-ci avait montée avec l'empressement d'une joie indicible. Pour la première fois alors, depuis l'heure où Diane avait appris la mort de son père, Diane avait goûté un mets plus substantiel que le pain. Pour la première fois, elle avait bu quelques gouttes d'un vin du Rhin que les gendarmes avaient trouvé dans la cave et avaient apporté à Dubouchage. Après ce repas, si léger qu'il fût, le sang de Diane, fouetté par tant d'émotions violentes et de fatigues inouïes, afflua plus impétueux à son cœur, dont il semblait avoir oublié le chemin. Remi vit ses yeux s'appesantir et sa tête se pencher sur son épaule. Il se retira discrètement et, comme on l'a vu, se coucha sur le seuil de la porte, non qu'il eût la moindre défiance, mais parce que, depuis le départ de Paris, c'était ainsi qu'il agissait. C'était à la suite de ces dispositions qui assuraient la tranquillité de la nuit qu'Aurilly était monté et avait trouvé Remi couché en travers du corridor. Diane, de son côté, dormait, le coude appuyé sur la table, sa tête appuyée sur sa main. Son corps souple et délicat était renversé du côté sur la chaise au long d'osier. La petite lampe de fer placée sur la table près de l'assiette à demi garnie éclairait cet intérieur qui paraissait si calme à première vue et dans lequel venait cependant de s'éteindre une tempête qui allait se rallumer bientôt. Dans le cristal rayonnait pur comme du diamant en fusion, le vin du Rhin à peine effleuré par Diane. Ce grand verre, ayant la forme d'un calice placé entre la lampe et Diane, adoucissait encore la lumière et rafraîchissait la teinte du visage de la dormeuse. Les yeux fermés, ses yeux aux paupières veinées d'azur, la bouche suavement entr'ouverte, les cheveux rejetés en arrière par-dessus le capuchon du grossier vêtement d'homme qu'elle portait, Diane devait apparaître comme une vision sublime au regard qui s'apprêtait à violer le secret de sa retraite. Le duc, en l'apercevant, ne put retenir un mouvement d'admiration. Il s'appuya sur le bord de la fenêtre et dévora des yeux jusqu'au moindre détail de cette idéale beauté. Mais tout à coup, au milieu de cette contemplation, ses sourcils se froncèrent. Il redescendit deux échelons avec une sorte de précipitation nerveuse. Dans cette situation, le prince n'était plus exposé au reflet lumineux de la fenêtre, reflet qu'il avait paru fuir. Il s'adossa donc au mur, croisa ses bras sur sa poitrine et rêva. Aurilly, qui ne le perdait pas des yeux, put le voir avec ses regards perdus dans le vague, comme sont ceux d'un homme qui appelle à lui ses souvenirs les plus anciens et les plus fugitifs. Après 10 minutes de rêverie et d'immobilité, le duc remonta vers la fenêtre, plongea de nouveau ses regards à travers les vitres, mais ne parvint sans doute pas à la découverte qu'il désirait, car la même ombre resta sur son front et la même incertitude dans son regard. Il en était là dans ses recherches lorsque Aurilly s'approcha vivement du pied de l'échelle. « Vite, vite, monseigneur, descendez, dit Aurilly, j'entends des pas au bout de la rue voisine. » Mais au lieu de se rendre à cet avis, le duc descendit lentement, sans rien perdre de son attention, à interroger ses souvenirs. « Il était temps, dit Aurilly. » « De quel côté vient le bruit ? » demanda le duc. « De ce côté, dit Aurilly, et il étendit la main dans la direction d'une espèce de ruelle sombre. Le prince écouta. « Je n'entends plus rien, dit-il. La personne se sera arrêtée, c'est quelque espion qui nous guette. « Enlève l'échelle, dit le prince. » Aurilly obéit. Le prince, pendant ce temps, s'assit sur le banc de pierre qui bordait de chaque côté la porte de la maison. Le bruit ne s'était pas renouvelé et personne ne paraissait à l'extrémité de la ruelle. Aurilly revint. « Eh bien, monseigneur, demanda-t-il, est-elle belle ?»« Fort belle, répondit le prince d'un air sombre. « Qui vous fait si triste alors, monseigneur, vous aurait-elle vu ?»« Elle dort. » « Et de quoi vous préoccupez-vous en ce cas ?» Le prince ne répondit pas. « Brune, blonde ?» interrogea Aurilly. « C'est bizarre, Aurilly, » murmura le prince. « J'ai vu cette femme-là quelque part. »« Vous l'avez reconnue, alors ?»« Non, car je ne puis mettre aucun nom sur son visage. Seulement, sa vue m'a frappé d'un coup violent au cœur. » Aurilly regarda le prince tout étonné, et puis avec un sourire dont il ne se donna pas la peine de dissimuler l'ironie. « Voyez-vous cela ? » dit-il. « Eh, monsieur, ne riez pas, je vous prie, » répliqua sèchement François. « Ne voyez-vous pas que je souffre ?»« Monseigneur, est-il possible ? » s'écria Aurilly. « Oui, en vérité, c'est comme je te le dis. Je ne sais ce que j'éprouve, mais, » ajouta-t-il d'un air sombre, « je crois que j'ai eu tort de regarder. » Cependant, justement, à cause de l'effet que sa vue a produit sur vous, il faut savoir quelle est cette femme, monseigneur. Certainement qu'il le faut, dit Henri. Cherchez bien dans vos souvenirs, monseigneur. Est-ce à la cour que vous l'avez vue? Non, je ne crois pas. En France? En Navarre? En Flandre? Non. C'est une Espagnole, peut-être? Je ne crois pas. Une Anglaise? Quelque dame de la reine Élisabeth? Non, non, elle doit se rattacher à ma vie d'une façon plus intime. Je crois qu'elle m'est apparue dans quelques terribles circonstances. Alors vous la reconnaîtrez facilement, car Dieu merci, la vie de Monseigneur n'a pas beaucoup de ces circonstances dont son Altesse parlait tout à l'heure. Tu trouves, dit François, avec un funèbre sourire. Aurilly s'inclina. Vois-tu, dit le duc, maintenant je me sens assez maître de moi pour analyser mes sensations. Cette femme est belle, mais belle à la façon d'une morte, belle comme une ombre, belle comme les figures qu'on voit dans les rêves. Aussi, me semble-t-il que c'est dans un rêve que je l'ai vue. Et, continua le duc, j'ai fait deux ou trois rêves effrayants dans ma vie et qui m'ont laissé comme un froid au cœur. Eh bien oui, j'en suis sûr maintenant, c'est dans un de ces rêves-là que j'ai vu la dame de là-haut. Monseigneur, monseigneur, s'écria Aurilly, que votre Altesse me permette de lui dire que rarement je l'ai entendu exprimer si douloureusement sa susceptibilité en matière de sommeil. Le cœur de son Altesse est heureusement trempé de manière à lutter avec l'acier le plus dur, et les vivants n'y mordent pas plus que les ombres, j'espère. Tenez, moi, monseigneur, si je ne me sentais sous le poids de quelques regards qui nous surveillent dans cette rue, j'y monterais à mon tour à l'échelle, et j'aurais raison, je vous le promets, du rêve, de l'ombre et du frisson de votre Altesse. Ma foi, tu as raison, dit Aurilly. Va chercher l'échelle, dresse-la et monte. Qu'importe le surveillant, n'es-tu pas à moi? Regarde, Aurilly, regarde. Aurilly avait déjà fait quelques pas pour obéir à son maître, quand soudain un pas précipité retentit sur la place, et Henri cria au duc: « Alarme, monseigneur, alarme! » D'un seul bond, Aurilly rejoignit le duc. Vous, dit le prince, vous, ici, comte, et sous quel prétexte avez-vous quitté votre poste? Monseigneur, répondit Henri avec fermeté, si votre Altesse croit me faire punir, elle le fera. En attendant, mon devoir était de venir ici, et m'y voici venu. Le duc, avec un sourire significatif, jeta un coup d'œil sur la fenêtre. Votre devoir, comte, expliquez-moi cela, dit-il. Monseigneur, des cavaliers ont paru du côté de Lescot. On ne sait s'ils sont amis ou ennemis. Nombreux? Demanda le duc avec inquiétude. Très nombreux, monseigneur. Eh bien, comte, pas de fausse bravoure, vous avez bien fait de revenir. Faites réveiller vos gendarmes, longeons la rivière qui est moins large et décampons. C'est le plus prudent parti. Sans doute, monseigneur, sans doute, mais il serait urgent, je crois, de prévenir mon frère. Deux hommes suffiront. Si deux hommes suffisent, monseigneur, dit Henri, j'irai avec un gendarme. Non pas, morbleu, dit vivement François, non pas du bouchage. Vous viendrez avec nous. Peste, ce n'est point en de pareils moments qu'on se sépare d'un défenseur tel que vous. Votre Altesse emmène toute l'escorte? Toute. C'est bien, monseigneur, répliqua Henri en s'inclinant. Dans combien de temps part votre Altesse? Tout de suite, comte. Holà, quelqu'un! Cria Henri. Le jeune enseigne sortit de la ruelle comme s'il n'eût attendu que cet ordre de son chef pour paraître. Henri lui donna des ordres, et presque aussitôt on vit les gendarmes se replier sur la place de toutes les extrémités du bourg en faisant leurs préparatifs de départ. Au milieu d'eux, le duc s'entretenait avec les officiers. Messieurs, dit-il, le prince d'Orange me fait poursuivre à ce qu'il paraît, mais il ne convient pas qu'un fils de France soit fait prisonnier sous le prétexte d'une bataille comme Poitiers ou au Pavis. Cédons donc au nombre et replions-nous sur Bruxelles. Je serai sûr de ma vie et de ma liberté tant que je demeurerai au milieu de vous. Et puis, se tournant vers Aurilly, toi, tu vas rester ici, lui dit-il. Cette femme ne peut nous suivre. Et d'ailleurs, je connais assez ces joyeuses pour savoir que celui-ci n'osera point emmener sa maîtresse avec lui en ma présence. D'ailleurs, nous n'allons pas au bal et nous courons d'un train qui fatiguerait la dame. Où va monseigneur? En France. Je crois que mes affaires sont tout à fait gâtées ici. Mais dans quelle partie de la France, monseigneur, pense-t-il qu'il soit prudent pour lui de retourner à la cour? Non pas. Aussi, selon toutes les apparences, je m'arrêterai en route dans un de mes apanages, à Château-Thierry, par exemple. Votre Altesse est-elle fixée? Oui, Château-Thierry me convient sous tous les rapports. C'est à une distance convenable de Paris, à 24 lieues. J'y surveillerai messieurs de Guise, qui sont la moitié de l'année à Soissons. Donc c'est à Château-Thierry que tu m'amèneras la belle inconnue. Mais, monseigneur, elle ne se laissera peut-être pas emmener. Es-tu fou? Puisque Dubouchage m'accompagne à Château-Thierry et qu'elle suit Dubouchage, les choses, au contraire, m'iront toutes seules. Mais elle peut vouloir aller d'un autre côté, si elle remarque que j'ai de la pente à la conduire vers vous. Ce n'est pas vers moi que tu la conduiras, mais je te le répète, c'est vers le comte. Allons donc, mais parole d'honneur, on dirait que c'est la première fois que tu m'aides en pareille circonstance. As-tu de l'argent? J'ai les deux rouleaux d'or que votre Altesse m'a donnés au sortir du camp des Polders. Ah, va donc de l'avant, et par tous les moyens possibles, entends-tu, par tous, amène-moi ma belle inconnue à Château-Thierry. Peut-être qu'en la regardant de plus près, je la reconnaîtrai. Et le valet aussi?
Oui, s'il ne te gêne pas.
Mais s'il me gêne, fais de lui ce que tu fais d'une pierre que tu rencontres sur ton chemin. Jette-le dans un fossé. Bien, monseigneur. Tandis que les deux funèbres conspirateurs dressaient leurs plans dans l'ombre, Henri montait au premier et réveillait Remy. Remy, prévenu, frappa à la porte d'une certaine façon et presque aussitôt la jeune femme ouvrit. Derrière Remy, elle aperçut du bouchage. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle avec un sourire que son visage avait désappris. « Oh, pardonnez-moi, madame, » se hâta de dire le comte, « je ne viens point vous importuner, je viens vous faire mes adieux. »«
Vos adieux, vous partez, monsieur le comte ?»«
Pour la France, oui, madame. »«
Et vous nous laissez ?»«
J'y suis forcé, madame, mon premier devoir étant d'obéir au prince. »
« Au prince, il y a un prince ici, » dit Remy.
« Quel prince ?» demanda Diane en pâlissant. « Monsieur le duc d'Anjou, que l'on croyait mort et qui est miraculeusement sauvé, nous a rejoints. » Diane poussa un cri terrible et Remy devint si pâle qu'il semblait avoir été frappé d'une mort subite.
« Répétez-moi, » balbutia Diane, « que monsieur le duc d'Anjou est vivant, que monsieur le duc d'Anjou est ici. »
« S'il n'y était point, madame, et s'il ne me commandait pas de le suivre, je vous eusse accompagné jusqu'au couvent dans lequel, m'avez-vous dit, vous comptez vous retirer. »«
Oui, oui, » dit Remy, « le couvent, madame, le couvent. »
Et il appuya un doigt sur ses lèvres. Un signe de tête de Diane lui apprit qu'elle avait compris ce signe. « Je vous eusse accompagné d'autant plus volontiers, madame, » continua Henri, « que vous pourrez être inquiétée par les gens du prince. »
« Comment cela ?»«
Oui, tout me porte à croire qu'il sait qu'une femme habite cette maison, et il pense sans doute que cette femme est une amie à moi. »«
Et d'où vous vient cette croyance ?»«
Notre jeune enseigne l'a vu dresser une échelle contre la muraille et regarder par cette fenêtre. »«
Oh !» s'écria Diane, « mon Dieu, mon Dieu !»«
Rassurez-vous, madame, il a entendu dire à son compagnon qu'il ne vous connaissait pas. »
« N'importe, n'importe, » dit la jeune femme, en regardant Remy.
« Tout ce que vous voudrez, madame, tout, » dit Remy, en armant ses traits d'une suprême résolution.
« Ne vous alarmez point, madame, » dit Henri, « le duc va partir à l'instant même, un quart d'heure encore, et vous serez seule et libre. Permettez-moi donc de vous saluer avec respect et de vous dire, encore une fois, que, jusqu'à mon soupir de mort, mon cœur battra pour vous et par vous. »
« Adieu, madame, adieu. » Et le comte, s'inclinant aussi religieusement qu'il eût fait devant un autel, fit deux pas en arrière.
« Non, non !» s'écria Diane avec l'égarement de la fièvre. « Non, Dieu n'a pas voulu cela, non. Dieu avait tué cet homme, il ne peut l'avoir ressuscité. Ah non, non, monsieur, vous vous trompez, il est mort !»
En ce moment même, et comme pour répondre à cette douloureuse invocation à la miséricorde céleste, la voix du prince retentit dans la rue.
« Comte, disait-elle, comte, vous nous faites attendre !»«
Vous l'entendez, madame, » dit Henri, « une dernière fois, adieu. » Et serrant la main de Remy, il s'élança dans l'escalier. Diane s'approcha de la fenêtre, tremblante et convulsive, comme l'oiseau que fascine le serpent des Antilles. Elle aperçut le duc à cheval, son visage était coloré par la lueur des torches que portaient deux gendarmes.
« Oh, il vit le démon, il vit !» murmura Diane à l'oreille de Remy avec un accent tellement terrible que le digne serviteur en fut épouvanté lui-même.
« Il vit, vivons aussi, il part pour la France, soit Remy, c'est en France que nous allons. »